RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 à RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous.
Et ensemble, nous recevons Sébastien Chenu. Bonsoir.
Bonsoir.
Député du Nord et du Rassemblement National, et vous êtes porte-parole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer la victoire de votre liste emmenée par Jordan Bardella, parlons des Républicains. Pourquoi ? Parce que vous êtes un ancien membre de l'UMP, aujourd'hui donc LR, dirigé par Laurent Wauquiez. Vous étiez parti donc pour rejoindre le Front National. LR a fait un score catastrophique dimanche soir. La raison arithmétique, eh bien, c'est qu'une bonne partie de l'électorat de François Fillon est partie chez La République en marche. Vous en avez pris aussi quelques-uns. Mais politiquement, comment vous expliquez ce crash ?
Je crois que les Républicains aujourd'hui n'ont pas compris une chose, c'est que le clivage droite-gauche, il a explosé depuis bien longtemps. Mmh. Il a explosé déjà dans la tête des Français. Les Français n'y croient plus à ce clivage depuis très longtemps. Moi, quand j'ai fait la démarche de rejoindre Marine Le Pen en 2014, j'oubliais pas d'où je venais et quelle était ma culture politique d'origine. Mais je votais depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, contre les traités européens ou pour des listes souverainistes. Et j'avais bien compris que les enjeux se situaient là, entre les mondialistes et ceux qui sont encore les partisans de la nation. Aujourd'hui, je crois que les Républicains croient encore qu'il y a un clivage droite-gauche, alors ils vont mourir. En étant de droite, en disant je suis de droite, mais ils vont mourir en pensant cela, un peu comme le Parti Socialiste.
Donc vous pensez qu'ils sont, il leur faut du en même temps ?
C'est pas qu'il leur faut du en même temps, c'est qu'il faut qu'ils clarifient leur position. Le problème, c'est que leur leur patron, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, les Barouins, tout ça, sont fascinés par Macron. Mais leurs électeurs sont d'accord avec le discours du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Donc là, le problème, il vient de là. Alors ils peuvent continuer sur ce chemin-là. Ils finiront par faire une sorte de figuration et s'enfermer dans un esprit finalement d'une espèce de droite du patrimoine un peu réac et qui pèse entre 5 et 8% finalement au bout du compte dans notre pays, mais qui ne fera ni une majorité, ni le pivot d'une majorité de demain, un peu à l'image finalement de ce qu'a été le Parti Radical à une époque, c'est-à-dire ils feront une sorte de figuration avec un réseau d'élus locaux.
D'une certaine manière, vous validez l'analyse d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite, lui il dit que le clivage aujourd'hui c'est entre les progressistes et les populistes ou les nationalistes ou l'extrême droite, vous voulez vous renommer, vous appelez les progressistes les mondialistes et les populistes vous les appelez les nationaux, mais finalement c'est la même lecture.
Ah mais ça fait longtemps, c'est d'ailleurs même sur cette ligne que Marine Le Pen a été élue présidente du Front National en 2012. Elle a expliqué très clairement, nous ne sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes patriotes. Nous défendons l'intérêt général de la France, donc son indépendance, la défense de son modèle social, son identité. Emmanuel Macron, lui, fait une autre analyse, il dit effectivement la droite et la gauche n'existent plus, mais lui défend plus de libéralisme, plus d'ouverture, non seulement des frontières, mais également plus d'inclusion européenne, etc. Donc on n'en tire pas les mêmes conclusions. Mais oui, je crois que tous les deux, et d'ailleurs nous accueillons chacun de notre côté des gens qui viennent de la droite et de la gauche. Nous avons accueilli des élus, notamment un élu régional de la France Insoumise.
Oui, de gauche, c'est le premier.
Oui, mais il y en aura d'autres, vous verrez.
De
vous verrez. Oui, il y en aura d'autres, et je vous le dis, aux élections municipales, il y en aura d'autres. Moi, dans mon territoire du Nord, je peux vous dire que dans ces territoires qui ont voté toute leur vie à gauche, où on fait des scores exceptionnels, nous accueillerons des gens de gauche, bien sûr.
Mais est-ce que, on voit bien que Marine Le Pen, elle a un plafond de verre, encore. Même si elle a gagné des voix, elle n'est qu'à 200 000 voix d'Emmanuel Macron. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, elle ne gagnerait pas. Donc il y a ce plafond de verre qui est là. Est-ce que vous pensez que la stratégie pour vous, c'est que une partie de la droite, que la droite dans le fond se cornerise et qu'elle accepte à un moment de faire alliance avec vous pour prendre le pouvoir? Est-ce que c'est
d'abord,
pas ça dans le calcul?
Je ne crois pas au plafond de verre. Je n'y crois pas parce qu'à chaque élection, on nous a dit « Mais vous n'aurez jamais, vous vous rappelez, il y a des années, le Front National n'arrivera jamais à 10%, puis il n'arrivera jamais à 15%, ils ne feront jamais 20%, ils n'iront jamais au second tour, ils n'auront jamais de députés, ils n'auront jamais de sénateurs, ils n'auront jamais de maire. »
Non, mais
on
le
a
fait
réussi
est
à chaque fois.
En ce moment.
À chaque fois.
Oui.
À chaque fois, on a progressé, nous n'avons jamais reculé, nous avons encore gagné des voix. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous sommes aujourd'hui le pivot de l'opposition. C'est-à-dire que c'est aux autres de se définir définir par rapport à nous. S'ils souhaitent gagner, nous sommes les seuls à pouvoir battre Emmanuel Macron.
Vous dites c'est pas à nous de leur tendre la main, mais à eux de nous tendre la main.
Nous on tend la main à tout le monde, évidemment. Ouais. Mais on va pas faire de magouille.
Elle l'a dit d'ailleurs, Marine Le Pen.
On ouvre les bras très grands.
Mais ils sont pas mûrs pour ça. Ils sont pas mûrs, les républicains.
Alors ils en mourront. Parce que leurs électeurs sont plus mûrs que leurs dirigeants. Nous, on veut pas de magouilles, de partis, d'alliances, de tambouilles, etc. Ça nous intéresse absolument pas. Ce qu'on veut, c'est accueillir les électeurs d'où qu'ils viennent pour pouvoir battre Emmanuel Macron, pas pour le plaisir de le battre, simplement parce qu'on pense qu'il y a une autre politique qui est possible pour le pays et pour l'Europe. Et on accueillera et on continuera d'accueillir, vous le verrez, au municipal, des gens qui viennent de tous les horizons. S'ils ne le font pas, alors ils mourront. Mais je pense que le petit jeu d'Emmanuel Macron de dire je suis le meilleur rempart contre le Rassemblement National, il est en train de trouver ses limites puisque nous venons de le battre aux élections européennes et que demain nous le battrons au présidentiel.
Marine Le Pen, là, elle revient un peu de l'enfer. Hein. Elle a connu une période très difficile après la présidentielle et notamment ce fameux débat manqué du deuxième tour. Là, il y a une dynamique qui s'est affirmée très clairement avec ses résultats aux élections européennes. Est-ce que vous ne redoutez pas précisément les municipales dont vous parlez ? Parce que c'est généralement un scrutin qui ne vous est pas favorable. Et est-ce que vous ne craignez pas que ça casse cette dynamique ?
Alors, d'abord, effectivement, Marine Le Pen est revenue. Enfin, c'est un peu le retour gagnant. Il y a un an et demi, beaucoup, parmi en tous les cas les journalistes, et je dois dire moins sur les médias internationaux qui ont probablement beaucoup plus de recul, avaient enterré Marine Le Pen.
Mais y compris chez vous, certains aussi le pensent.
Oui, mais ceux qui ont fait
le
choix.
Ne le disaient pas sur les plateaux, mais
ceux qui ont fait le choix. Ceux qui ont fait le choix de partir pour ces raisons-là,
Qui sont restés.
Bah alors ceux qui sont restés doivent être très contents d'être restés, de s'être trompés. Mais ceux qui sont partis et dont les scores ont été devancés par des têtes de liste qui étaient des animaux, par exemple par la liste animaliste, doivent s'en mordre les doigts. Pour le reste, les municipales, non, moi je crois que d'abord les maires Rassemblement National vont tous être très très bien réélus. Très très bien réélu. Et je pense que nous allons gagner d'autres mairies. Nous allons en gagner des grosses, des villes moyennes, mais nous allons gagner des mairies.
Alors Agir, le parti du centre droit qui est allié à Emmanuel Macron, demande aujourd'hui à des maires, des républicains, de venir les rejoindre justement pour les municipales. Est-ce que, d'abord, votre réaction, et deux, est-ce que c'est une bonne nouvelle dans le sens où il pourrait y avoir, dans le fond, la droite pourrait devenir en fait, en quelque sorte, un grand parti centriste, et les plus à droite, vous pourriez faire affaire avec eux. C'est
alors,
une bonne nouvelle.
Moi, je ne crois pas beaucoup à la terminologie, comme je vous l'ai dit, droite-gauche. Donc, je pense que on se positionne par rapport à d'autres enjeux que la droite et la gauche. Je pense que c'est de la clarification, c'est tant mieux. Si des gens ont envie de partir faire équipe avec Emmanuel Macron, et je suis sûr que les cadors des Républicains, la caste dirigeante des Républicains, ils sont fascinés par Emmanuel Macron, donc ils iront en pensant que ça va leur sauver la mise. Et puis, moi, je pense que, et ça m'intéresse davantage que les cadors, les gens qui sont attachés
à leur siège. Mais ça, c'est pas mal
siège,
pour vous, justement.
Moi, je pense que le discours qui est nôtre, il s'adresse aux électeurs, pas uniquement aux électeurs des Républicains. Je vous l'ai dit, les gens de gauche, en tous les cas, sont les bienvenus également à partir du moment où ils
Vous disiez qu'il n'y avait pas de clivage, là vous me parlez de la gauche.
Les gens de l'ex-gauche, en tous les cas, de ce qui était la gauche, c'est vrai, vous avez raison, sont les bienvenus. Mais ce que je veux dire, c'est que ces clivages et ces histoires de tambouilles politiques, moi j'y crois plus beaucoup. Donc demain, s'il y a de la clarification,
La tambouille, ça sert à gagner les élections.
Pas réellement, vous avez bien vu, nous on était alliés avec personne, on est en tête, alors que En Marche était allié avec le Modem, avec je sais pas trop quoi là, les constructifs ou je sais pas quel est l'espèce de groupe de droite qui en fait est un soutien d'Emmanuel Macron.
Agir.
Ils étaient liés avec tous ces gens-là et finalement ils sont arrivés derrière nous.
Alors Roselyne parlait tout à l'heure du fameux plafond de verre à propos de Marine Le Pen, mais on pourrait aussi parler dans une certaine mesure d'un quelque chose comme un caisson d'étanchéité parce que malgré la dédiabolisation, malgré le changement de présidence, Marine Le Pen à la place de Jean-Marie Le Pen, malgré la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen, malgré le changement de nom, pour une bonne partie des responsables politiques français, vous êtes toujours considéré comme un parti infréquentable, comme un parti dangereux, qui menacerait nos institutions, qui représenterait un péril grave pour la France. Comment l'expliquez-vous, ça ?
Je pense qu'il n'y a plus qu'une caste complètement déconnectée de la réalité qui peut penser ça. D'ailleurs, vous voyez bien, même le mot est difficile à prononcer. C'est-à-dire que la dédiabolisation n'a plus besoin d'exister parce que nous ne sommes pas le diable. Parce que lorsque nous sommes en tête pour la seconde fois aux élections européennes dans ce pays, parce que lorsque nous rassemblons un tiers des électeurs au présidentiel, parce que nous avons des députés et des élus dans toutes les assemblées de France, nous jouons non seulement le jeu de la démocratie, mais les Français nous voient à l'œuvre. Ils voient que nous sommes authentiquement républicain, attaché aux valeurs de la République, et que nous défendons tout simplement une autre offre politique qui est celle, comme je vous l'ai dit, de la défense de la nation. Et à partir de là, les Français, ils ont les yeux ouverts. Vous savez, les Français, ils voient la réalité des choses, ils voient ce que ça veut dire que le vivre ensemble hein, dans leur quotidien. Ils voient ce que ça veut dire la politique qui est menée par l'Union européenne dans leur quotidien. Ils voient ce que ça veut dire la politique d'Emmanuel Macron dans leur quotidien. Et ils voient ce qu'est le Rassemblement national également dans leur quotidien.
Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné, votre parti est arrivé en tête, donc il a gagné ses élections européennes. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a gagné, elle, en voyant sa liste première? Parce que quand on voit le différentiel avec 2014, il y a quoi, 570 000 voix de plus?
C'est pas mal.
C'est pas mal, mais il y a eu une plus forte participation aussi. Donc, c'est pas forcément... Enfin,
je pense que certains s'en seraient contentés
d'avoir
570 000 voix de plus.
Mais qu'est-ce qu'elle gagne de plus?
Elle gagne le fait de montrer qu'elle rassemble, qu'elle est capable de dépasser aussi les vieilles habitudes politiques. Elle a fait confiance à une autre tête de liste. Souvent, on a dit, mais avec qui va gouverner Marine Le Pen? Marine Le Pen a montré qu'elle pouvait gouverner demain avec des gens comme Jordan Bardella, Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, Hervé Juvin, des gens neufs, nouveaux ou expérimentés, et qui ont montré notre capacité d'ouvrir largement. Et puis je pense que nous avons, parce qu'on a fait un manifeste en ce qui concerne notre politique européenne, dans lequel on a beaucoup parlé de localisme, etc., on a développé toute une philosophie, je pense qu'on a gagné, et Marine Le Pen a permis de gagner, notamment pour nos élus européens demain, en crédibilité. On montre qu'on est capable d'avoir une réponse sur tous les sujets finalement qui font la vie quotidienne des Français.
Est-ce que Jordan Bardella, avec cette campagne, a pris une nouvelle dimension? Est-ce qu'il a acquis une nouvelle stature dans le parti?
Je crois que chacun reconnaît qu'il a été exceptionnel en campagne, que ça a été un très bon candidat. Je pense qu'il aura beaucoup d'avenir, qu'il a beaucoup d'avenir, que c'est un candidat remarquable. Et en plus, il a été particulièrement humble, ce qui est souvent, qui n'est pas souvent le cas en politique. On l'a vu avec Mme Rousseau.
Il faut que ça dure maintenant.
Bien sûr, il faut que ça dure. Mais rappelez-vous quand même, on a présenté les deux candidats principaux, j'allais dire, dès le début de la campagne. D'un côté, on moquait Jordan Bardella, un petit jeune qui vient de banlieue, qui n'a pas de diplôme. Et de l'autre côté, Mme Loiseau, très sérieuse, très diplômée. On a vu ce que c'était Mme Loiseau, vraiment de candidate d'un niveau piteux. C'était indigent, la campagne et les propos de Mme Loiseau.
Sur ce que Marine Le Pen gagne en plus, ce que vous expliquiez, est-ce que cette victoire-là l'immunise contre un éventuel retour de sa nièce, dont on disait qu'elle se mettait en recul de la politique pour mieux revenir quand elle le déciderait en quelque sorte.
Bon, je crois que
l'état des gens serait.
Moi, je crois que Marion Maréchal, en tous les cas, ne souhaite pas refaire de politique. Elle l'a dit plusieurs fois. Je ne suis pas évidemment son porte-parole, mais je crois que les dernières déclarations étaient je ne veux pas refaire de politique de façon active. Je participe au débat d'idées là où je suis en créant une école. Mais bon, la deuxième chose, c'est que ça valide en tous les cas la théorie de Marine Le Pen, sa capacité à dire que effectivement la droite et la gauche sont des concepts anciens qu'il faut dépasser, que la France se réorganise autour de deux nouvelles quelque part familles politiques, de deux nouveaux axes politiques, et ça valide la thèse de Marine Le Pen. C'est en cela qu'elle est évidemment forte, mais aussi qu'elle avait prévu tout cela il y a bien longtemps.
Alors il faut quand même qu'on dise un petit mot d'Europe, puisque ce sont des élections européennes, et Marine Le Pen a promis, et Jordan Bardella aussi bien entendu, pendant cette campagne, qu'en cas de bon score du Rassemblement National, eh bien on allait voir ce qu'on allait voir au Parlement européen, que les choses allaient changer, qu'il pèserait lourd. Est-ce que vous êtes bien sûr que les élus du Rassemblement National vont être en mesure de tenir cette promesse compte tenu des rapports de force?
Oui, d'ailleurs, c'est Jean-Claude Juncker lui-même qui dit ils vont peser lourd. Alors nous allons passer vraisemblablement, et au moment où nous parlons, je crois que nous sommes
peser lourd arithmétiquement. Alors, c'est une chose, mais il y a peser lourd politiquement.
Mais vous savez que c'est important aussi, surtout dans un Parlement où personne ne va avoir la majorité. Oui. Le PPE, le PSE, visiblement, ne sont plus en capacité d'avoir seul la majorité au Parlement européen.
Oui, encore faut-il que vous ayez un groupe commun.
Oui, mais nous sommes en train d'y travailler au moment où nous parlons. Nous sommes déjà, je crois, 77 députés européens, et nous passons de la place de 8e à la place de 4e. quatrième au Parlement européen.
Par exemple, Orban, qui est le chef des bloqueurs, il veut pas travailler, il veut pas siéger dans le même groupe.
Il n'y a pas que Orban qui nous intéresse. Vous avez vu qu'il y a des tas de députés qui sont issus de mouvements d'ailleurs, qui sont parfois.
C'est lui qui amène le gros des troupes quand même.
Oui, mais enfin, les députés britanniques vont être intéressants aussi.
Oui, mais ils vont partir.
Oui, mais enfin, en ce moment, ils vont arriver à une vingtaine, visiblement. Donc, ce sera toujours intéressant de savoir ce qu'ils veulent faire. En tous les cas, nous, de la même façon, nous ouvrons les bras parce que nous voulons peser. Et puis, il y a une autre étape qui va être très intéressante, c'est la désignation des commissaires. Est-ce que vous croyez sincèrement que M. Salvini, en tout cas les gouvernements italiens, pardon, les gouvernements hongrois, etc., vont nommer des commissaires européens, vont désigner des commissaires européens qui vont être dans la ligne de ce qu'a été l'Union européenne dernièrement? Ça va être très intéressant. C'est pas uniquement le Parlement européen qui est intéressant, c'est tout le jeu de l'Union européenne qui est bousculé par l'arrivée des défenseurs des nations à tous les niveaux.
D'accord. Mais là, si on regarde, vous aurez 174 sièges contre 154 avant. Bon, il y a une petite progression, mais enfin, il n'y a pas non plus de quoi crier, venez voir.
Ah, mais partir du moment où on n'est pas dans la majorité, évidemment,
voilà,
on bouscule. Mais le jeu avec les commissaires européens va être intéressant.
Mais ma question, c'est, certes, ça progresse, mais le vent fort des nationalistes n'a pas soufflé au point où vous espériez, c'est-à-dire que en Espagne c'est décevant pour vu de votre fenêtre, c'est décevant aussi pour l'Allemagne, c'est décevant pour les Pays-Bas, pour l'Autriche.
Alors vous savez, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. En Espagne, Vox n'existait pas aux dernières élections européennes, donc ils font entrer des élus pour la première fois. Je pense qu'en Espagne, il y a d'autres gens qui doivent être très déçus. C'est Manuel Valls et ses amis qui se sont pris une méga claque à Barcelone. Vous me direz, les élections européennes ont permis de faire oublier que Manuel Valls allait se prendre cette claque gigantesque. Mais en Belgique, nos amis du Vlaams font entrer des parlementaires. L'ensemble des observateurs nous avait dit les Britanniques regrettent leur vote sur le Brexit. Ah oui, ils le regrettent vraiment. Ils vont envoyer un nombre très important, le premier groupe de députés brexiteurs. Donc moi, je pense qu'il y a des rapports de force qui ont bougé, qui se sont inversés. Il y a en tous les cas aujourd'hui, en Europe comme en France et comme dans d'autres pays, la constitution de deux blocs qui vont aujourd'hui effectivement proposer deux chemins possibles pour l'Europe.
Pour revenir un instant aux résultats, à travers la carte de France de ce qui s'est passé dimanche, on constate que le Rassemblement National est arrivé en tête dans 72 départements contre 27 départements où la liste de Nathalie Loiseau s'est imposée. La liste de Nathalie Loiseau est plus forte dans les grandes villes, vous êtes nettement devant dans toutes les zones rurales. Est-ce que c'est en quelque sorte la traduction de la crise sociale à laquelle on a assisté, c'est-à-dire d'un côté une France qui se sent déclassée, oubliée, et de l'autre des grandes villes où on se sent un peu plus à l'aise?
Vous avez raison, il y a une fracture sociale absolument énorme dans ce pays. Il suffit d'ailleurs de superposer cette carte électorale avec la carte du vote en Île-de-France pour s'apercevoir que toute la banlieue ouest de l'Île-de-France a voté très fortement Macron, c'est-à-dire les endroits qui abritent les CSP+, les gens qui sont les plus friqués finalement, et puis les milieux populaires, eux, ils sont réticents au vote Macron. Et on le voit dans toute la France. Mais ça voudra dire qu'à l'avenir, et notamment pour les municipales, je pense qu'il va falloir repenser dans nos propositions la capacité des solidarités entre communes. Moi, je ne peux plus accepter qu'il y ait des métropoles qui soient goinfrées de fric, de moyens, d'accès à la culture, à la santé, au transport, et que de l'autre côté, il y a une France qui crève. Alors, il va falloir rééquilibrer ça, et toutes ces métropoles à la mondialisation heureuse, elles vont devoir banquer.
Eh bien voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci Sébastien Chenu, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci à vous, et merci à Charlotte Urien-Tahomaka et à Camille Nerand pour avoir préparé cette émission, et merci à toute l'équipe technique, à très vite. Appel sur la